Moi, j'aime bien aussi un évangile pratique qu'on peut le comprendre. Et je pense que ce matin, et peut-être comme d'habitude, je vais commencer par une petite histoire que j'ai lue, ça fait longtemps. Je me rappelle que quand j'ai quitté mon pays pour la première fois, c'était l'année 2001, ça fait plus de 20 ans déjà. Et je me rappelle que quand j'étais en Espagne, c'était mon beau-père qui est là. On a la grande bénédiction d'avoir la famille de Paula ici pendant 2 mois. Alors c'est lui qui m'avait donné un petit livre avec des histoires qui nous parlent de comment on peut grandir dans la vie. Alors c'est pas un livre, on va dire, chrétien, mais c'est un livre que quand tu le regardes avec attention, tu peux attirer beaucoup des enseignements que tu pourras aussi donner aux autres. Alors, il y a une petite histoire, et je pense que l'auteur, il est inconnu. Et c'est une histoire qui s'appelle Une maison imparfaite. Une maison imparfaite. C'est comme la mienne, hein? On est toujours en train de construire quelque chose. Toujours il y a des travaux à faire. Moi, je suis chef d'entreprise. Je travaille dans les bâtiments. Je visite pas mal de maisons. Je vois plusieurs maisons. Je vois des belles maisons, des maisons anciennes, des maisons à restaurer. Je travaille dans la restauration des maisons. Alors toujours, on voit que ça n'existait pas la maison parfaite. Alors, cette histoire, il nous raconte qu'il y avait un maçon, déjà très âgé, qu'il était prêt à prendre sa retraite pour profiter de ses dernières années. Mais il a parlé avec son patron. Il a dit, écoute, j'ai l'intention de partir parce que je vais prendre ma retraite et je voudrais une vie un petit peu plus calme et plus tranquille avec ma femme et avec ma famille. Alors, il a pensé, bon, peut-être je ne vais pas gagner le même salaire, mais ce n'est pas grave, je vais profiter un peu, il faut profiter la vie. Alors, le patron s'est rendu compte qu'il était inévitable que son bon employé quitte l'entreprise. Et lui, il a demandé quelques dernières choses à faire. Cette histoire, je l'ai racontée ici, ça fait 300 ou 4 ans, la première fois que j'ai partagé quelque chose. Et c'était au moment qu'on a été en train de créer un groupe pour les personnes de 40 ans. Vous vous rappelez? Peut-être que vous ne vous rappelez pas. Alors, le patron, il dit, écoute, je vais te demander une dernière chose à faire. Et ça sera, tu vas me construire une dernière maison. Parce que ça, c'est un boulot spécial pour moi. Le maçon, il a dit, je suis âgé, je suis fatigué déjà, je ne voudrais pas faire une dernière maison, je veux juste profiter de la retraite. Alors, il était habitué à faire des belles maisons, il était un vrai professionnel. Mais il a dit, écoute, je vais faire cette dernière maison, mais il a commencé à faire avec des mauvais matériaux, des mauvaises qualités. Il a pris des ouvrières qui a dit, écoute, c'est mon dernier travail, c'est pas grave s'il ne va pas rester une belle maison. Et il a commencé à construire cette maison et c'était une façon malheureuse de terminer sa carrière. Le plus grand souci, c'est qu'à la fin, quand le maçon a terminé le travail, le patron, il passe à regarder la maison qu'il avait préparée, cette maison. Et après, il avait les clés à la main. Il donne les clés et il dit, écoute, je te demandais de faire cette dernière maison parce que cette maison, je te la fais construire pour toi. Ça veut dire que c'était le cadeau du maçon qui est le patron. Il avait dans son corps prévu de donner déjà. Et comment restait la maison? La maison, c'était une maison tordue, une maison peut-être sans fondement, une maison avec du matériel de mauvaise qualité, une maison qui peut-être c'était pas la maison que cette maçon il avait prévue pour lui. Cette histoire, il nous parle beaucoup. Et pour moi, je voudrais réfléchir ce matin, que tu réfléchisses avec moi. Quoi que vous fassiez dans votre journée, dans votre vie, il faut le faire avec tout notre corps. Parce qu'on fait les choses pas pour que les gens nous voient. On fait les choses parce qu'on travaille pour lui et pour le Seigneur. Une autre réflexion qu'on peut attirer d'ici, c'est qu'il faut que tout notre corps, notre esprit et notre âme soient avec les choses qu'on fait et qu'on prépare tous les jours. Et je pense que ça, c'est important. Je ne sais pas si tu as prévu déjà ou tu as rentré dans une entreprise, n'importe quelle. Si tu as un projet dans ta tête. Peut-être que le Seigneur il t'a dit, écoute, je pars pour cette couple pastorale, il faut quitter la Corée, il faut aller loin, malgré les difficultés, malgré la situation. Mais ils sont déjà un projet de vie que le Seigneur il a préparé. Je parle à tout le monde. On peut voir ici des enfants, je pense que Valentina est à quel âge? 10 ans, 11 ans. 10 ans, 11 ans, peut-être que ce n'est pas le moment de commencer à réfléchir pour les grands projets de notre vie, pour les mariages, pour la maison, pour le travail que je vais envisager, pour la carrière que je vais faire dans l'université. Mais tu sais une chose, tous les jours qu'on se réveille, on est déjà confronté à prendre des décisions. Alors, c'est à toi de prendre les bonnes décisions ou les mauvaises décisions. C'est à toi de dire, est-ce que je vais choisir marcher sur la foi, marcher sur les choses qui sont écrites dans la parole ou pas. Et cette histoire, il nous raconte que quand tu prends les bonnes décisions jusqu'à la fin de faire les bonnes choses, tu vas recevoir toujours une grande bénédiction. Amen. On va passer à la parole et je vais passer cette prédication dans la lettre de Luc, chapitre 6, verset 46. Alors, je vais te poser une question ce matin. Et après, à la fin, peut-être que tu pourras répondre si tu veux. La première question que je vais te poser ce matin, c'est quelle est la base de votre maison? Je ne parle pas seulement de la maison que tu habites. Je ne parle pas de ta vie, de ton projet, de les choses que tu as prévues déjà faire. Alors, je vais te poser une deuxième question. Et c'est quel est le fondement de ta vie? Quel est le fondement de ta vie? Et tu sais, le fondement, c'est quelque chose que c'est très important. Quand tu vois, moi, je travaille dans une entreprise que je ne construis pas une maison. Je ne fais pas la maison. Mais des fois, je n'ai pas la capacité encore pour construire une maison complète. Mais quand tu arrives dans un terrain que c'était prévu déjà pour construire une maison, il y a des choses qu'à la fin de la construction, jamais tu vas voir. Et tu sais, on oublie les choses plus importantes, que c'est le fondement, que c'est la base de notre vie. Et cet fondement, même que tu ne le vois pas, ça va soutenir toute la maison, parce que ça va solidifier le terrain. Moi, j'ai raconté cette histoire, et ça fait une semaine dans les groupes de prière. Et je me rappelle qu'à l'époque que je cherchais une maison, ça fait 2 ans, pour acheter ici dans les coins. J'avais vu par internet une maison pas loin d'ici, à Messières-sur-Seine, que c'était une vraie affaire. Parce que c'était pas cher, pas du tout. Moi, j'avais un budget, je ne pouvais pas dépasser parce que je n'avais pas trop d'argent. Mais après, quand j'ai commencé à regarder et à trier pour prix, moi, j'ai tombé sur un truc que je dis, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette maison. Effectivement, moi, j'ai appelé. On a essayé de faire la visite plusieurs fois. Je n'ai pas eu l'opportunité, mais quand même, je me déplaçais un peu parce que je savais c'était quelle adresse de la maison. Et ma surprise, c'était quand je regarde la maison, et la maison était rempli de fissures à l'extérieur. Mais ce n'était pas des fissures qu'on dit, écoute, il y a des fissures de 3, 4 mm. Moi qui travaille dans les bâtiments, on mesure les fissures pour savoir l'état des fondations. Et qu'on suive les fissures. Alors moi j'ai vu cette maison et je dis, écoute, peut-être qu'on pourra, que la maison pourra tenir, mais il faut investir beaucoup d'argent pour faire un traitement, pour solidifier cette maison. Parce que même que la maison, elle était belle, plus belle que la maison que j'ai maintenant, même que la maison c'était grand, même qu'il y avait un grand terrain, même que les prix s'étaient cassés, c'était une maison difficile à vendre. Je dirais presque impossible. Parce que rentrer dans une maison comme ça, ça veut dire que tu auras toujours le risque et la peur de que cette maison, elle va tomber. Et c'est pareil pour nous, pour la vie chrétienne. On commence et on va rentrer à la parole. Je vais commencer verset 46, Luc 6, 46. Je vais lire la version DVS. Bon, je vais lire la version qu'il est là. Pourquoi m'appelez-vous? Ah, c'est la même que je n'ai. Tu l'as pris pour moi. Ah, merci. Merci. Merci, André. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous n'accomplissez pas ce que je vous commande? Ivan, tu peux arrêter ce micro, s'il te plaît, parce que je trouve un bruit bizarre. Et celui-là. Merci. Alors, le Seigneur, il commence aussi par une question. Je vais te poser cette question ce matin. Si tu crois que Dieu, il est Dieu, et que lui, il est Seigneur de ta vie, est-ce que tu as la disposition de l'obéir ou pas? Je pense qu'on est dans un milieu chrétien. Il y a quelqu'un qui n'a pas assez Christ dans sa vie et qui ne connaît pas et qui connaît pas la repentance dans cette salle ou pas? Qui lève la main, la personne qui connaît pas? Alors cette prédication, ça concerne vraiment à l'Église. Il y a une autre manière de voir cette histoire. Je vais pas rentrer parce qu'il y aura pas le temps, mais tu peux trouver la même histoire dans Matthieu et 7, à partir du verset 24. Et c'est la même histoire racontée, peut-être d'une manière un peu différente, mais en tout cas, ça commence pour dire, si tu crois que le Seigneur est le Seigneur, alors pourquoi on ne croit pas et on ne fait pas les commandements que le Seigneur il nous a donnés? C'est ça une question qu'il faut que l'Église se pose. Je ne suis pas là ce matin pour juger, parce que je n'aime pas rentrer dans les jugements, mais je pense que ça, c'est une question que de temps en temps, n'importe quel projet de vie que tu es en train de démarrer ou de commencer, mais il faut que tu te poses la question. Quel endroit occupe le Seigneur dans ce projet que je vais commencer? Et je pense que pour les pasteurs, c'est plus simple, plus facile. Parce que toutes les choses qu'on envisage à faire des choses, on pense, c'est le Seigneur, c'est Dieu qui va me conduire. Même comme ça, ce n'est pas facile seulement pour les pasteurs ou pour les missionnaires. Mais je pense à tout le monde, à les gens qui vont commencer et qui vont rentrer dans l'université. Les personnes qui pensent maintenant, Seigneur, je prie que tu vas me donner un homme de foi qui va m'accompagner dans toute ma vie. Pour les personnes qui peut-être qu'ils sont déjà engagés dans son mariage, qu'ils sont des enfants, mais que des fois ils sont dans la difficulté avec des problèmes de couple. Et n'importe quel projet que tu as démarré déjà, il faut toujours se poser cette question. Est-ce que Dieu, vraiment, Jésus, il est la base de ce projet que je suis en train de commencer? Alors, c'est important l'obéissance. Et pourquoi c'est important l'obéissance? Parce que cet homme de cette histoire que j'ai racontée, imaginons qu'il a fait bien le boulot que son patron il avait demandé. Il aurait eu une très belle maison. Et le Seigneur, il va nous raconter une histoire, que c'est une histoire que tout le monde connaît, que tout le monde sait, mais que je pense que c'est important pour l'Église de nous rappeler que le vrai fondement de la vie chrétienne, c'est Christ. Mais qu'il n'y a pas seulement que ça. Moi, j'ai changé un peu avec André ce matin, il m'a dit, écoute Oscar, des fois les chrétiens, on regarde la parole de Dieu et on dit, c'est vrai que le roc, le fondement principal de la vie chrétienne est Christ. Et c'est vrai que c'est Christ. Mais il faut que chacun de nous apporte quelque chose d'important pour la construction de cette maison, de cette vie, de ce projet que tu as préparé et que le Seigneur il a envisagé déjà pour toi. Alors, on va rentrer un petit peu plus loin dans la parole. Alors, c'est ça la question. Tu aimes à Dieu vraiment? Et la réponse est, si tu l'aimes, il faut l'obéir. Tu peux m'accompagner à lire Jean 14, verset 15. Jean, chapitre 14. Et on va lire deux versets. Le premier, c'est Jésus qui parle dans le verset 15. Alors il dit, « Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Si tu m'aimes, tu vas suivre mes commandements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. » Et ça parle du Saint-Esprit. Alors, si tu penses que tu lui as donné la place principale dans ta vie, c'est parce que tu as décidé d'aimer à Dieu. Et si tu penses que tu l'aimes, il faut que tu te poses la question ce matin, est-ce que j'ai mérité obéir à Jésus et ses commandements? Parce que c'est la part plus difficile à comprendre et à faire dans cette prédication que je voudrais partager ce matin. Connaître à Dieu, je pense que c'est facile. Accepter à Jésus dans notre vie, c'est quelque chose que je dis, c'est facile, parce que c'est pour ça qu'il s'appelle la bonne nouvelle. Parce que tout est bon. Quand tu te rapproches de Dieu, tu vois que tout est bon, tout va bien. Le Seigneur, il va venir, il va te guérir, il va répondre à tes questions, tu vas voir comment il va commencer à faire des miracles. Vous savez, écoutez les témoignages ce matin pour la famille d'Anderson. Ils sont en train de se rapprocher de la foi. Tu vas voir comment le Seigneur il va agir. Mais l'important, ce n'est pas seulement de commencer à construire. C'est de que cette construction, ce projet que j'ai envisagé pour ma vie, il va tenir dans le temps. Et je vais te donner des éléments ce matin que tu vas comprendre. Comment on peut faire pour bien construire ce que le Seigneur il t'a dit à toi de construire. Tes couples, ta famille avec tes enfants, les projets que tu as envisagé déjà. Comme tu vas réussir dans les projets de vie que le Seigneur il t'a donné. Alors cette parole, ce n'est pas seulement pour les gens qui sont dans la salle ou pour les personnes qui sont plus âgées et qui sont des projets. Je pense que c'est un projet pour tout le monde. Notre pasteur, il envisage un nouveau défi pour sa vie. Et même que maintenant, on est dans une étape de transition dans notre église et qu'on va travailler tous les deux ensemble, je pense que maintenant, il commence à voir qu'est-ce qu'il va faire dans cette région ou comme le Seigneur, il va accomplir toutes les promesses que le Seigneur il avait données déjà à André ou à Michel. Alors, cette prédication, ce n'est pas seulement pour les personnes qu'ils sont de courage, qu'ils ont commencé à faire les choses, parce qu'on ne peut pas oublier qu'il y avait un Caleb dans la parole de Dieu, que même à 80, il avait 80, non, c'est ça, quand il a passé à voir à Josué, il a dit, écoute, il y a une promesse pour moi que Moïse il m'a fait, il y a une partie là-bas dans le mont Hermon, et Moïse il avait dit, ça, cette partie, ça sera pour toi. Alors il avait la force pour commencer, parce que c'est lui, c'est le Seigneur qui te donne la force, parce que ce n'est pas toi, c'est si tu es placé dans les fondements et dans la base, qu'on va voir tout à l'heure que c'est Christ, tu vas pouvoir démarrer des projets et alors tu vas réussir dans ta vie. Tu sais, la obéissance, et écoute ça que je vais te dire ce matin, la différence entre un vrai disciple de Jésus et un faux disciple de Jésus, ça passe par l'obéissance. Et tu peux dire, écoute, je suis chrétien, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que je suis dans l'église, mais rien qui se passe dans ta vie. On est comme dans une, comment ça dit, estanc, étang. Un étang, qu'il y a l'eau qui bouge pas. Un étang. On est dans un étang. Notre vie chrétienne, des fois, il est comme si on était dans un étang qui rien que bouge. Mais il faut bouger. La vie chrétienne est très difficile pour la vivre, déjà. Mais pour être là, tous les dimanches, pour écouter un message, pour venir à louer, pour être avec les autres, ce n'est pas seulement le but de la vie chrétienne. Je te dis ce matin, Dieu, le Seigneur, il a préparé déjà pour toi un projet. Il a préparé déjà une structure pour que tu rentres dans l'appel qu'il a fait pour toi. Des fois, on ne rentre pas, on n'arrive pas, mais tu sais, je te dis ce matin de la part de Dieu, la clé, comme tu vas réussir dans toutes les choses que tu vas apprendre, ça s'est dit comme ça? À démarrer, comment dit? À démarrer, la clé, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Il n'existe pas autre chose qui va faire que tu vas grandir dans la foi. C'est difficile à dire parce que c'est un mot que peut-être on ne voudrait pas toucher maintenant. Quand on parle d'obéissance, on dit il faut se soumettre. Peut-être que les enfants, ils disent, il faut écouter mon père, il faut l'obéir, ça c'est dur. Dans ton boulot, tu peux dire, écoute, j'ai un patron, il faut l'écouter, il faut l'obéir. Il faut avoir les concepts d'autorité. Je ne veux pas rentrer dans l'autorité ce matin. Je n'ai pas trop le temps pour développer ça, mais c'est quelque chose que je pense que c'est important de prêcher dans l'Église. On parle ce matin de fondements et de bases. Des fois, on voudrait prêcher, on voudrait aller plus loin, on voudrait connaître la scatologie, on voudrait voir les grands miracles. Mais on oublie que le fondement de la vie chrétienne, c'est Christ d'abord. Et après, il y a une autre structure qui est basée dans la parole de Dieu. Et c'est ça qu'on va étudier, à continuer à étudier ce matin. Le plus grand test, et écoute ça que je vais te dire ce matin, le plus grand test de ta foi en Dieu, c'est l'obéissance à ses commandements. Il y aura un moment dans ta vie que tu vas être confronté dans les projets qu'il t'a donné à faire. Et tu dois choisir. Si tu vas choisir l'obéissance à Dieu ou tu vas choisir obéir toutes les choses que le monde entier il va te dire à faire. Et je parle pour tous les gens qui sont ici ce matin. C'est difficile d'être chrétien et être jeune à cette époque. On est exposé à trop d'informations, de pression de la part de l'ennemi. Mais il y aura des moments que tu auras la possibilité de choisir et il faut que tu choisisses pour le Seigneur. Il y a un verset, je ne vais pas rentrer ça, mais si tu as le temps de lire chez toi, j'aimerais bien que tu lises Deutéronome 30, dans le verset 15. Le Seigneur, il a dit à le peuple juif, il a dit, écoute, j'ai mis devant toi deux situations. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Obéir mes commandements ou ne pas obéir mes commandements. Alors, je te laisse choisir. Et c'est ça que je te dis de la part du Seigneur. Tu auras toujours la possibilité de choisir. Parce qu'il nous a créés avec une caractéristique spécifique qui fait de nous la différence avec toute la création. Et c'est qu'on a la possibilité de dire « je veux » ou « je ne veux pas ». Je pense que je parle ce matin. On n'a pas de personnes qui peut-être qu'ils sont nés de nouveau, mais tout le monde est chrétien, tout le monde connaît Jésus. Et c'est pour ça que je m'adresse à vous pour dire toujours, tu vas devoir choisir entre les bons et les mal, entre prendre la bonne décision et les mauvaises décisions. Il y a trois étapes de la construction d'une maison ou de la construction de notre vie. Dans les versets, on va continuer Luc 6 et on va rentrer dans les versets 47 et 48. Dans les versets 47,
Jésus, il continue à parler et il dit, « Savez-vous à qui ressemble celui qui vient à moi, qui écoute mes paroles et les applique ?» C'est ce que je vais vous montrer. Il ressemble, verset 48, à un homme qui a bâti une maison. Il a creusé, il est allé profond et il a assis les fondations sur le roc. Quand le fleuve a débordé, les eaux se sont jetées avec violence contre la maison, mais elles n'ont pas pu l'enrôler parce qu'elle était construite selon les règles de l'art. Moi, j'aime bien cette version parce qu'à la fin, il dit que c'est une maison qui a été construite par Paul, par rapport à la loi. Et la loi, c'est important. Connaître la loi, c'est important. Connaître la parole, c'est important. C'est pour ça que je suis très content de voir cette famille ici ce matin, parce que c'est une famille qui travaille pour le royaume de Dieu, dont le ministère plus important que c'est les enfants. On cherche une date, mais je pense que le 4 ou le 11 de juin, on va faire la présentation de Issan, que c'est l'enfant de Nicole et Davy. Et moi, je vais préparer un petit message pour les parents aussi, parce que je pense qu'il faut être conscient qu'on est dans un monde qui voudrait attirer toujours l'attention de nos enfants. On est dans un monde qui voudrait gagner nos enfants, rattraper nos enfants avec tous les mensonges, avec toute l'information, avec la télé, avec plein de choses. Et je dis que l'importance plus importante maintenant, c'est de nous baser dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je veux partager quelques versets qui nous montrent l'importance d'apprendre et de connaître la parole. Parce que si tu ne connais pas la parole, tu ne sais pas ce que tu fais dans ta vie et tu ne pourras pas construire ta vie. Si tu ne connais pas la parole, qu'est-ce que tu vas obéir si tu ne la connais pas? Comme tu sais si tu es obéissante, s'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de lois, il n'y a pas de commandements. Comme je sais si je suis obéissante à mon père ou à ma mère, si jamais ma mère il s'approche de moi pour me dire, écoute, mon fils, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Mais il faut connaître. Et c'est pour ça que Jésus, dans le verset 47, je vais revenir un petit peu avant, il dit, savez-vous à qui ressemble celui qui vient à moi? Alors, la première chose, il faut venir à Jésus. Et ça, c'est la première chose dans un projet que tu vas démarrer. Et je pense que tu l'avais fait déjà. Je pense que peut-être ce message, c'est très simple pour toi. Tu dis, écoute, ça c'est des choses que j'avais écoutées, que je comprends, que je connais. Pour moi, ce verset, ça ne part pas trop. Mais je voudrais que tu vois quelque chose que peut-être le Saint-Esprit il peut te montrer ce matin que tu n'as pas vu. Et pour moi, s'il y a quelque chose d'important ici, c'est que ce n'est pas seulement venir à Jésus et le connaître. Les bonnes nouvelles, c'est facile, comme j'ai dit. Mais après, la base est Christ. Je voudrais que tu m'accompagnes à lire en 1 Corinthiens 3, verset 1. À partir du verset 4. Il y avait une situation difficile dans l'église de comment s'appelle, Corinthe, Corinthien, Corinthe. Il y avait une situation difficile dans l'église de Corinthe. Alors Paul, il a été dans un grand souci parce qu'il y avait une partie de l'église ou des personnes de l'église qui disaient, écoute, moi, je voudrais suivre à Paul. Il y avait une autre partie de l'église qui l'a dit, écoute, moi, je pense que je suis un disciple d'Apollos. Apollos, non, c'est ça? D'Apollos. Alors, il y avait des divisions dans l'Église. Il y avait quelques situations difficiles pour gérer de la part de Paul. Et à partir du verset 4, il commence à dire, vous dites, pour moi, c'est Paul, ou pour moi, c'est Apollos. N'êtes-vous pas comme les autres hommes. Verset 5, il dit, après tout, que sont donc Apollos et Paul? Des serviteurs, grâce auxquels vous avez été amenés à la foi, chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée. Alors, ce matin, parce qu'il y a quelqu'un qui t'a parlé. Tu es là ce matin parce qu'il y a ta mère, ton père, quand tu étais petit, qui t'a ramené à l'église. Tu es là parce qu'il y a quelqu'un qui a pris le temps d'obéir à Dieu et de te parler de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que tu es là ce matin. On est tous d'accord avec ça. Il y a quelqu'un qui nous a parlé. Alors, l'apôtre Paul, il dit, « Moi, j'ai planté Apollos à arroser, mais c'est Dieu qui a fait croître. Peu importe, en fait, qui plante et qui arrose, ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Et celui qui plante et celui qui arrose son ego, et chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu, et vous, vous êtes les champs qu'il cultive, ou encore, écoute ça, vous êtes l'édifice qu'il construit. » L'apôtre Paul, il compare l'église, et maintenant je parle de l'église, je parlais de ta vie personnelle, de ta vie familiale, mais Paul, il dit, cette église, chaque église, il est appelé un édifice en construction pour Christ. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu peux le lire après. La parole, il dit que nous, chacun de nous, on est le temple qui habite le Saint-Esprit. Alors, on est déjà en construction. On est toujours en construction, en formation avec lui. Et l'apôtre Paul, il dit, alors, vous êtes l'édifice qu'il construit. Verset 10, conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée, j'ai posé chez vous les fondements comme un sage architecte. Le Seigneur, il avait choisi à Paul pour établir les églises. Il avait choisi à Paul, pas parce qu'il était le mieux et le plus capable, c'était juste que le Seigneur, il avait mis des dons et des talents en lui, des dons et des talents qu'il n'a pas vus avec sagesse pour travailler pour Dieu avant. Parce que tout le monde connaît l'histoire de Paul. Paul était le plus grand persécuteur de l'Église. Et il ne le savait pas, parce qu'il ne connaissait pas la parole. Il connaissait la parole, mais il ne connaissait pas le fondement principal, que c'était Christ. Et c'est ça le problème des fois dans les églises. On devient religieux, et c'est quelque chose que j'ai changé aussi avec André ce matin. On dit, écoute, je connais la parole, je connais la Bible, j'ai lu la Bible deux fois, trois fois, mais il faut plus que ça. Il faut apprendre à travailler ensemble. Il faut apprendre que si André, il a fait quelque chose pour cette église, et moi, je ne sais pas combien de temps je serai là, c'est la continuation d'un travail qu'on fait tous ensemble, parce que ce n'est pas lui qui a créé l'église, ou ce n'est pas moi qui va faire d'une manière différente, parce qu'en tout cas, cette corps et cette église, il appartient à qui? À Christ, parce que c'est lui le fondement. Et c'est ça qui a expliqué l'apôtre Paul. Il a dit, écoute, tout le monde dit, ah oui, je suis de Paul, c'est lui qui m'a partagé la parole. L'autre, il a dit, non, je suis d'Apollos, mais il a dit, c'est pas ça. Parce que ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui a passé par la croix, on va le lire encore. Mais le fondement est Christ. Dans le verset 11, pour ce qui est du fondement, nul, écoute ça, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et c'est ça le verset que je voudrais vous amener. Il n'existe pas dans cette église et dans l'église universelle de Jésus un autre fondement principal que l'évangile et que lui qui a donné sa vie pour nous. Bien sûr qu'une fois qu'on pose les fondations dans une maison, il faut continuer à la construire. Vous trouvez des fois des maisons qu'ils sont abandonnées, des personnes qui ont commencé à construire sa maison, on voit les fondements. Parce que des fois, on peut le voir si la maison elle n'est pas construite complètement. Bien sûr qu'on va avoir les fondements. Il faut que les fondements ils soient solides, bien attachés, avec bon ciment, avec bon ferraille. Mais il y a des projets qui sont abandonnés. Il y a des projets que le Seigneur peut-être il t'a donné et que peut-être il pourra raviver ou il pourra le réveiller aujourd'hui. Et c'est ça ma prière. Que si tu as eu une révélation de la part de Dieu, que s'il t'a donné une tâche à faire. Et ça, c'est l'exemple d'André. André, il a dit l'autre jour qu'on était dans la pastorale des Montes, il a dit, maintenant, je vais faire ce que le Seigneur il m'a donné à faire, mais que peut-être pendant 30 ans, je n'ai pas fait. Pourquoi? Parce qu'il a été à faire autre projet d'église, autre chose d'une manière différente. Ça ne veut pas dire qu'il a perdu le temps avec l'église. Non, pas du tout. Il avait été en formation. Parce qu'il faut voir les choses comme ça. À chaque fois que tu traverses une difficulté, Constant, à chaque fois que tu vois une situation difficile qui s'oppose, c'est l'ennemi qui veut que tu abandonnes les projets qu'il a préparés, que Dieu a préparé pour toi, avec ta famille, avec la chose que le Seigneur il t'a donné à faire. Et on ne peut pas abandonner. On ne peut pas rester comme une maison qu'on trouve dans la rue, qu'il n'y a que les fondements et après ils ne sont pas construits. Mais il n'y a pas que les fondements. Une fois que les fondements, que cette base, qu'il est inamovible, qu'on ne peut pas douter qui est Christ, tu pourras commencer à construire. Et la deuxième étape, je vais passer à ça, dans la construction d'un projet pour ta vie, il doit être basé sur la parole de Dieu. Parce que c'est ça. Là, c'est là qu'il y a toute l'information pour que tu arrives à construire ta vie. Moi, quand j'échange avec des personnes qui ne connaissent pas la parole de Dieu, il y a toujours une question qui pose toute la société. Et je pense que peut-être vous l'avez posée une fois. Est-ce que je vais être, par exemple, père, mais personne qui m'a informé ou m'a préparé pour être un bon père? Je veux me marier, mais comme je peux être une bonne femme, un bon homme dans un couple? On n'a pas été préparé. Alors, ça, il y a une partie de vrai et il y a une partie de faux. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on arrive dans cette terre, on a déjà un manuel d'instruction. Et comment on l'appelle ici en France? Une notice. Une notice. Quand tu passes chez IKEA, tu vas acheter un meuble. Je me rappelle que quand j'ai acheté le lit de ma fille, c'était un lit spécial parce qu'il faut monter un cadre. Et après, il y a un autre lit qui glisse à l'intérieur. Alors, j'avais un peu l'expérience de monter des meubles chez IKEA. Mais je me rappelle que les jours que j'ai monté le lit de ma fille, ça, c'était horrible. Et tu sais pourquoi? Parce que je commençais à dire, écoute, j'ai l'expérience, je connais un peu comment ça marche, j'ai monté déjà quelques meubles IKEA, alors je pense que maintenant je vais les faire à ma manière. Je vais les faire comme je sais, parce que moi je suis un professionnel, je travaille dans les bâtiments, je suis un professionnel, je vais les faire comme je veux. Alors vous savez, je parais aussi. En plus, j'étais obligé à revenir à l'arrière. Ce n'est pas un problème, revenir à les points zéro de ta vie. Si tu es dans ta vie, dans un moment, que tu reviens à un point zéro, et je ne sais pas pourquoi, mais c'est le Seigneur qui connaît ton corps. Il faut que tu le dises, Seigneur, maintenant, je voudrais faire les choses à ta manière et pas à la mienne. Des fois, on revient sur les points zéro, parce qu'il y a des ennemis, il y a l'orgueil, il y a plein de choses qui se passent dans notre vie, mais en tout cas, il faut dire, Seigneur, je vais faire à ta manière et pas à la mienne. Si on écoutait la voix de Dieu. Et si on suivait, et on arrive à obéir la voix de Dieu, tu sais la quantité de problèmes qu'on peut éviter dans notre vie. Et je parle pour les gens, pour la jeunesse. Moi, quand je vois mes filles, qu'elles sont 15 ans, 17 ans déjà, et qu'elles sont là présentes au milieu de nous, je dis, Seigneur, que tu les donnes la sagesse d'écouter ce message, d'écouter à Dieu, d'écouter sa parole, de lire sa parole et de s'instruire dans la parole de Dieu, parce que c'est là qu'il y a la sagesse. Si tu as le fondement qui est Christ, et après tu montes en dessus et tu as la parole, c'est ça qui va faire que toutes les entreprises que tu vas faire, elles vont réussir. Sinon, c'est mieux de ne pas commencer. Parce qu'après, à la fin, tu vas avoir des soucis. Alors, le Seigneur, il nous a laissé une notice pour notre vie. Tu veux devenir un très bon père de famille, il faut que tu lis ici, que tu te rapproches de la parole de Dieu. Tu veux être un bon mari, il faut que tu te rapproches de la parole de Dieu. Tu veux être un bon voisin, un bon chef d'entreprise. Tu veux être un bon missionnaire. Tu veux être un bon pasteur, il faut que tu te rapproches, de la parole de Dieu. Tu connais Jésus déjà. Je sais que tout le monde le connaît là. Mais il faut aller un petit peu plus loin. Parce qu'à la fin, cette histoire, il nous rend compte qu'il ne faut pas seulement avoir un bon fondement, qu'il ne faut pas seulement avoir la parole de Dieu, mais qu'il faut aller un petit peu plus loin. Je veux accélérer un peu pour finir. On va finir bientôt. Mais il faut écouter la parole, mais pas seulement l'écouter. Il faut suivre la parole. Romains 10, 17, il dit la parole, il vient pour écouter. La foi, il vient pour écouter. Écouter quoi? Écouter la parole de Christ. Écouter la parole de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important. Alors, si tu écoutes la parole, si tu es devant la parole de Dieu, et pas seulement qu'elle a écouté. Tu peux l'écouter ici tous les dimanches, bien sûr. On va lire des versets ici à la Bible. Mais il faut que tu rentres, que tu, comme on vient de lire, il faut creuser dans la parole. Il faut rentrer avec l'intimité et connaître mieux à Dieu. Et tu peux le connaître seulement qu'à travers de la parole qu'il nous a laissée. Parce que c'est le témoignage qu'il nous a laissé. Tu peux dire, écoute, moi ça m'est arrivé parce que mes deux filles ont commencé à lire, ça fait pas longtemps, la Bible, et pour Genèse. Et c'est difficile de lire la parole des fois dans l'Ancien Testament. On va trouver des guerres, on va trouver des choses que peut-être on va dire, oh, ça c'est long à lire, il y a des choses que je ne comprends pas. Mais toujours on aura le Saint-Esprit qui va nous conduire. Alors même que l'histoire, il est marqué, il a resté dans la ville pour nous. Cette histoire, il va nous rappeler tout le temps que les mêmes soucis qui a traversé les Juifs, on va les traverser dans notre vie jour à jour. Et c'est pour ça que c'est important de connaître la parole. Pour revenir à cette mission qui font les pasteurs ici, il y a un verset que j'aime beaucoup. Et la parole, il dit, c'est le maman dans la maison qui doit apporter cette parole à tous les enfants. Parce que s'ils arrivent à comprendre la parole, jamais ils vont oublier. Parce que la parole, il va toujours nous rappeler que le fondement est Christ. Et c'est pour ça que c'est important les ministères avec les enfants. Parce qu'avec un enfant de 4 ans, 5 ans, 7 ans, tu pourras l'apprendre les choses, il va garder pour sa vie. Un garçon de 15 ans, 17 ans, 18 ans, qu'il ne connaît pas la parole, qu'il ne s'attache pas à la parole, ça sera plus difficile de revenir vers Dieu. Je ne dis pas impossible, parce que c'est le Seigneur qui touche les corps, et c'est le Seigneur qui va tirer les gens, mais c'est plus difficile. On peut épargner nos enfants si on laisse apprendre toujours à se retrouver dans la parole de Dieu. Il y a Hébreux 4, 12 qui dit que la parole de Dieu, il est comme une épée. Ça la compare comme une épée. Et la parole, il dit que cette épée, il peut couper pour les deux côtés. Et la parole dit qu'il va rentrer jusqu'à discerner entre l'âme et l'esprit. Et la parole dit qu'il va discerner tes pensées et encore plus loin, les intentions cachées qu'on a dans notre corps. Alors, tu dis, écoute, je me deviens me marier, je cherche un homme conforme à la volonté de Dieu, un jour, voilà, ou un homme qui dit, oh, je me deviens trouver une femme, mais bien sûr qu'il faut trouver quelqu'un de bien, mais il faut que moi, mon corps et mes pensées, ils soient d'accord à la volonté et à la parole de Dieu aussi. Alors, comme tu peux avancer dans l'état de ta guérison. Si tu veux soin de guérison dans ta vie, il faut que tu te rapproches de la parole de Dieu. Parce que c'est dans la parole de Dieu que le Seigneur il va te révéler comme il est l'état de ton corps. Si tu veux, j'ai prêché, ça fait 2 mois ou 3 mois. Tu connais l'état de ton corps, tu peux le connaître quand tu te rapproches de la parole de Dieu. Parce que Dieu il va te montrer si ton corps va bien ou il ne va pas. C'est la parole, c'est un instrument qui va mesurer et qui va nous montrer, c'est pour ça que c'est la loi, si je suis d'accord avec Dieu ou pas, si je suis en train de suivre la vie ou la mort, si je suis en train d'obéir ou pas. Et c'est seulement la parole. Mais la parole, pas tout seul, c'est de l'information. Il faut la parole, appliquer la parole, mais il faut aussi avoir l'onction du Saint-Esprit pour comprendre sa parole. Amen. Dans les versets 2 Timothée, ça je vais les lire, 2 Timothée 3, 16 et 17. 2 Timothée 3, 16 et 17, c'est important, ce verset, c'est pour ça que je ne vais pas sauter ça. Ah oui, car toute l'écriture, écoute ça, car toute l'écriture, toute la parole est inspirée de Dieu et utile. La parole, elle est utile. Pour faire quoi? Pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. La parole de Dieu t'aide à construire une bonne œuvre. C'est ça qu'il fait. La parole de Dieu, il prépare les hommes, les femmes de Dieu pour faire l'œuvre dans l'Église que le Seigneur il a déjà préparée. Psaume 119, 105, la parole dit que la Bible, la parole, c'est comme une lampe qui va éclairer ton chemin. La Bible, c'est comme une torche, une lampe que tu prends dans tes mains, que tu ne sais pas dans quel endroit tu vas y aller, mais que tu sais qu'à chaque pas que tu vas donner, il y a cette parole qui va te montrer l'endroit dans lequel il faut que tu continues à marcher. Je parle de tous les bénéfices de connaître la parole de Dieu. Et pour terminer, Psaume 119, versets 9 et 10. Et ça, c'est pour les gens. C'est un verset que j'aime bien, que je voudrais partager ce matin. Et écoute ça. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? C'est une question. C'est en se conformant à ta parole. Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne me permet pas que j'ai des vies de tes commandements. Comme tu pourras garantir que tu resteras sur le chemin droit et sur le chemin que le Seigneur il a préparé quand tu es jeune et tu as connu la parole de Dieu, c'est seulement rester attaché à sa parole. Je vous invite à prier. Je vais finir ce message et à la fin. Je pense que c'est important connaître. Je pense que tout le monde le connaît, mais c'est important connaître parce que en Luc 6, verset 48, c'est la partie que on voudrait pas être représenté pour ça. La parole dit: mais celui qui écoute mes paroles sans les appliquer ressemble à un homme qui a construit sa maison directement sur la terre. Meubles sur les sables, sans fondation. Dès que les eaux du fleuve se sont jetées contre elle, la maison s'effondre et il ne reste qu'un grand tas de ruines. C'est difficile d'écouter ça, mais c'est important aussi, parce que c'est les conséquences de la désobéissance à la parole de Dieu. Amen. Je vais inviter le groupe de louanges. On va finir pour la prière. Bon, j'aimerais bien reprendre les derniers chants. On va nous encourager, on va louer. Merci, merci Seigneur, parce que tu nous as laissé, Seigneur, et ta parole, Seigneur. Et c'est une parole de vie. C'est une parole, Seigneur, et vivant, et une parole efficace, Seigneur, que tu nous as donnée. Et tu établis, Jésus, tu as dit: je suis le fondement de la vie chrétienne. Et on est fondé sur toi, Seigneur. Je t'invite ce matin, si peut-être tu t'éloignais un peu du vrai fondement. Je ne veux pas te juger ce matin. Je voudrais que tu réfléchisses dans ta vie par rapport à cette parole qu'on a partagée ce matin. Peut-être que c'est ton cas. Tu as basé ta vie sur la... Je ne sais pas, sur tes couples. Tu as basé ta vie sur la... Je ne sais pas, sur le chômage, sur l'argent. Tu as basé ta vie sur plusieurs choses. C'est ça qui tu as trouvé l'assurance. Mais... Si c'est le moment ce matin, dis-lui, Seigneur, j'aimerais bien revenir à toi. Je te prie, Seigneur, que tu m'aides, même que ça fait longtemps, peut-être que tu es chrétien, que tu le connais déjà, ou que tu as grandi dans l'Évangile, mais de temps en temps, on commence à s'éloigner de lui. Et la parole nous rappelait que toutes les personnes qui se rapproche de lui, on va trouver en lui qu'il va nous révéler, qu'il va nous relever dans les moments difficiles. La parole dit, toutes les personnes qui sont fatiguées du chemin, toutes les personnes qui peut-être qu'ils ont commencé déjà à faire des projets, mais qu'ils sont arrêtés, qu'ils sont dit, Seigneur, je ne peux plus. Si tu es fatigué ce matin, je t'invite à faire une prière personnelle et te rapprocher de lui et dire, Seigneur, tu as promis que toutes les personnes qui sont fatiguées, qui sont dans la détresse, Seigneur, on va revenir à toi et tu vas nous relever, Seigneur. Je te prie, Saint-Esprit, de relever ce temps, tous les dons et tous les talents que tu as mis dans cette église, Seigneur. Tu as préparé déjà un projet, Seigneur, pour cette église, pour chaque famille, pour chacun de nous. Et peut-être l'ennemi, il a voulu que tu abandonnes. Je te dis de la part du Seigneur ce matin, Seigneur, il te dit, il faut que tu te relèves et que tu n'abandonnes pas ce que le Seigneur il a mis dans ton cœur. Il veut seulement que tu te rapproches de lui, que tu laisses ce matin toutes les charges, toutes les choses qui sont lourdes dans ta vie, parce qu'il a promis que son charge, il est plus légère que la nôtre. Que tu le dis ce matin, Seigneur, je voudrais revenir à toi, Seigneur. Je voudrais que tu sois le fondement de ma vie. Je veux soin être formé pour ta parole, Seigneur. Je sais, j'écoutais, j'ai connu ta parole, Seigneur. Peut-être que ça t'arrive comme moi. Il y a plein de choses à faire dans toute la semaine que tu n'as pas le temps pour lire, pour voir, pour approfondir dans la parole de Dieu. Mais dis-lui, Seigneur, je voudrais me rapprocher un petit peu plus de toi, Seigneur. Je voudrais te connaître, Seigneur. Je voudrais apprendre à te connaître, Seigneur. Et aller un petit peu plus loin, Seigneur, pour connaître, Seigneur, la volonté et les projets que tu as préparés pour moi, Seigneur. Et dis-lui, Seigneur, je voudrais pas seulement connaître ta parole, mais je voudrais, Seigneur, être obéissant, Seigneur, à cette parole que tu as remarquée, Seigneur. C'est vrai que des fois, on n'a pas envie de lire la parole, d'obéir, on n'a pas envie de faire, Seigneur. On est dans une société, peut-être dans un pays, que quand tu parles d'obéissance, peut-être que c'est un grand mot, ou c'est dire quelque chose de très fort. Mais Seigneur, en tout cas, quand on regarde la parole, on voit que c'était toujours le cas, Seigneur, des hommes et des femmes de Dieu qui ont réussi, des personnes qui sont obéies à ta parole. Et de lui, Seigneur, je ne voudrais pas seulement obéir ta parole, mais je voudrais être, Seigneur, un membre actif, Seigneur, dans l'Église, pour accomplir, Seigneur, et pour appliquer la parole, Seigneur, que tu m'as donnée. La parole dit qu'un homme qui écoute la parole et qui ne fait rien sans celle, c'est comme un homme qui se voit devant un miroir et qui voit son visage, qu'il est bien, qu'il est parfait, mais qu'après, il tourne les dos et après il commence à voir vraiment et à oublier qu'est-ce que le Seigneur il avait donné. Je prie pour toi ce matin que tu te retrouves en Christ, que tu reviennes sur les fondements et que même dans une période difficile, Seigneur, et dans une génération difficile, je prie que le Seigneur il te relève et il te donne toute sa sagesse
et de la puissance de sa parole pour accomplir tous les projets qu'il a préparés dans ta vie.